Plus de 9 000 milliards d'euros vont être transmis d'ici 2040.
Des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit.
Toutes les études le démontrent. Aujourd'hui, en France, on s'enrichit davantage en héritant qu'en travaillant.
Je ne vois pas pourquoi mes enfants auraient des facilités que moi, je n'ai pas eues.
Nous ne parvenons plus à nous constituer des patrimoines équivalents à ceux de nos grands-parents.
Et vous allez voir que l'enjeu va bien au-delà d'un simple écart entre générations. Et que le pire est peut-être à venir. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?» dans lequel nous allons cette fois-ci aborder le patrimoine. À âge comparable, était-il plus facile pour les boomers de se constituer un patrimoine que pour les trentenaires d'aujourd'hui ? Et que va devenir ce patrimoine lorsque cette génération disparaîtra ? Cette grande transmission atténuera-t-elle les inégalités ou risque-t-elle au contraire de les aggraver? Pour répondre à ces questions, nous allons comparer deux périodes de vie, celle des 30-40 ans, entre 1980 et 1985, et celle de personnes du même âge aujourd'hui. Commençons tout de suite par la première période. Le début des années 1980 est une période économiquement secouée. La France sort des Trente Glorieuses et la succession des chocs pétroliers de 1974 puis de 1979 marque une véritable rupture.
Les principaux pays exportateurs de pétrole décident d'augmenter le prix du baril de 70% et de réduire la production de 5% chaque mois.
Pour économiser l'essence auto, nous avons donc décidé de limiter la vitesse.
Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
À partir du milieu des années 1980, la croissance ralentit nettement, dans un contexte de forte inflation et de dégradation plus générale de l'environnement économique. Et cela se ressent sur le pouvoir d'achat et sur le niveau de vie.
Au-delà des transports, c'est toute l'économie qui s'enraye, car avec le cours du pétrole, tous les prix grimpent.
Est-ce que les prix ont augmenté, madame, à votre avis ?
Ah, moi, oui. Et surtout dans la rue, il y a des marchands qui changent les étiquettes dans la journée. Hein. Je dirais pas où, mais...
L'industrie est à la peine. Dans la chimie, dans le textile, on recourt au chômage partiel et on licencie.
Si l'on regarde le pouvoir d'achat du revenu disponible brut par unité de consommation, c'est-à-dire le niveau de vie réel corrigé de la taille du ménage, la dynamique ralentit nettement à partir de la fin des années 1980. Autrement dit, les premiers boomers qui entrent alors dans la trentaine ne vivent pas un âge d'or du pouvoir d'achat. Le début des années 1980 est bien une période de tension, de ralentissement et une perte de dynamisme par rapport aux décennies précédentes. L'INSEE souligne d'ailleurs que, sous l'effet des difficultés économiques du début des années 1980, le niveau de vie médian et moyen ne progresse plus que d'environ 0,7% par an en moyenne entre 1979 et 1990. Mais cela ne signifie pas non plus que tout s'écroule complètement. Si nous prenons un peu de recul, l'INSEE montre ici que l'indice du pouvoir d'achat du revenu disponible brut par unité de consommation reste assez stable. En d'autres termes, malgré un environnement économique tendu, le niveau de vie réel ne s'effondre pas. Au milieu des années 1980, il se maintient et demeure encore globalement supérieur à son niveau de 1975. En somme, le début des années 1980 n'est ni une période facile, ni une période totalement verrouillée. Car même dans ce contexte compliqué, il existait des conditions qui restaient plus favorables qu'aujourd'hui pour commencer à bâtir un patrimoine. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ce format est soutenu par NordVPN qui propose actuellement une offre spéciale avec 4 mois d'abonnement offert sur les 2 ans. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Ça vous laisse libre d'essayer. Vous avez le lien en commentaire et description. La suite offre désormais un gros plus, la protection anti-menace Pro, en temps réel sur vos 10 appareils. Les sites malveillants ou pop-up frauduleux sont bloqués avant même d'arriver jusqu'à vous, de même pour les trackers qui ne respectent pas votre vie privée. Vous avez la possibilité de vous connecter partout dans le monde pour accéder à n'importe quel contenu, pendant que NordVPN s'occupe de votre sécurité, notamment en scannant vos mails en cas de fuite sur le darknet, s'assurant ainsi que votre navigation reste bien sécurisée. Vous retrouverez également le gestionnaire de mots de passe dédié ainsi que le cloud pour vos fichiers. Alors, vous attendez quoi pour passer à l'action et reprendre votre hygiène numérique en main ? Partons tout d'abord d'un point très concret, le calendrier de vie. Car entrer plus tôt dans la vie adulte, c'est aussi pouvoir accumuler plus tôt. La génération 1945 sortait de formation initiale à un peu plus de 17 ans, alors que la génération 1990 terminait ses études à environ 21 ans. Et ce décalage se retrouve ensuite dans l'entrée sur le marché du travail. Le CESE rappelle que l'âge moyen d'accès à un premier emploi stable est passé de 20 ans en 1975 à 27 ans aujourd'hui. Et mécaniquement, un accès plus tôt laisse plus de temps pour épargner, acheter, rembourser et recommencer. Deuxième point, la place des jeunes dans les revenus et les salaires était différente. La position des jeunes dans l'échelle des revenus s'est dégradée. En 1979, le revenu moyen net des prélèvements obligatoires des 30-34 ans était supérieur de 9% à celui des 50-54 ans. 40 ans plus tard, en 2019, c'est l'inverse. Il lui est inférieur de 13%. Et ce n'est pas tout. À 30 ans, les bacheliers de la génération 1950, donc au moment où ils sont trentenaires au début des années 1980, perçoivent 120% du salaire moyen contre 80% pour les bacheliers de la génération 1970. À 30 ans, les salariés nés autour de 1940 perçoivent en moyenne 1,24 fois le salaire moyen, contre 0,81 pour ceux nés autour de 1980. Troisième point, à cette époque, l'accès à la propriété progressait chez les jeunes adultes. La part des propriétaires parmi les 25-39 ans passe de 28% en 1968 à 33% en 1975, puis 39% en 1982. Mais ensuite, la montée s'arrête. Au début des années 80-85, les jeunes adultes entraient donc de plus en plus dans la propriété. Et ce point est décisif parce qu'à cette époque, et tout comme aujourd'hui, le logement occupait déjà une place centrale dans le patrimoine des ménages. Passons au quatrième point. Le budget laissait davantage d'air, donc plus de capacité d'épargne. Avant même de parler de patrimoine, il faut regarder ce qu'il reste réellement une fois les dépenses contraintes payées.
Après avoir payé le loyer et tout ce que... Je crois que ça fait 970 francs par mois pour se nourrir, pour s'habiller, pour sortir, pour tout ce qu'on fait dans une vie, quoi. Vivre en ville, qu'il faut tout acheter avec le SMIG, ben je ne sais pas comment ils font, c'est pas possible.
Selon l'INSEE, les dépenses préengagées représentaient 22% du revenu disponible brut en 1980, dont 17% pour le logement. Ce n'est pas léger, mais loin des niveaux actuels. En 2024, elles représentent 23% du revenu disponible brut pour le logement et 30% pour les dépenses préengagées. En conséquence logique, si le logement et les charges fixes absorbent davantage de revenus, il devient plus difficile de dégager une capacité d'épargne par le travail. Une fois le logement acheté, l'inflation desserrait plus vite le crédit. Durant cette période, l'inflation est élevée et l'IGEDD montre ici une forte décélération au milieu des années 1980 après un début de décennie très inflationniste. Mais surtout, comme nous l'avons expliqué dans notre épisode 2 dédié au logement, lorsqu'un ménage achète son logement avec une mensualité fixée, une période d'inflation peut réduire assez vite le poids réel de cette mensualité dans le budget, notamment lorsque les revenus nominaux suivent davantage. Ainsi, le crédit ne pesait pas autant dans la durée, de la même manière qu'aujourd'hui. La période qu'ont connue les boomers lorsqu'ils entrent dans la trentaine n'était pas un âge d'or. Mais ce n'était pas encore un monde refermé.
345 francs, chaussures.
Écoutez le prix, hein, va voir dans les boutiques.
Je te dis, il faut encore que je fasse virer du compte d'épargne sur le compte de chèque.
Les boomers, à cette époque, n'étaient pas nécessairement plus riches au départ. Mais ils avaient davantage les conditions nécessaires pour commencer plus tôt à bâtir un patrimoine par leur trajectoire, avant même la question de l'héritage. Et dans cette période où l'immobilier représentait déjà le cœur du patrimoine des ménages, acheter tôt ne signifiait pas seulement pouvoir se loger. Cela impliquait le fait de pouvoir commencer plus tôt à transformer une dépense en actif. Mais à partir des années 2000, l'explosion des prix de l'immobilier va transformer cette avance initiale des boomers en un avantage beaucoup plus puissant, aux conséquences très lourdes pour la suite. Il est désormais temps de revenir dans le présent. Même si le début des années 1980 n'a rien d'une période confortable, le contraste devient beaucoup plus frappant par rapport à la situation des trentenaires d'aujourd'hui. Car ils peuvent aussi se constituer un patrimoine, mais l'entrée n'a pas le même visage. Les ménages dont la personne de référence de 30 à 39 ans détiennent en moyenne 265 000 euros de patrimoine brut, avec une médiane de 146 200 euros. Mais il y a aussi l'envers du décor. L'endettement est massif précisément à l'âge d'entrée de constitution d'un patrimoine. Par exemple, en moyenne, à 30 ans, 78 900 euros d'emprunt. À 35 ans, 91 300 euros d'emprunt. Et sur la même enquête, début 2024, 66% des ménages dont la personne de référence a 30-39 ans ont au moins un emprunt en cours et presque 50% sont endettés pour de l'immobilier. Alors oui, les boomers avaient également des crédits. Mais ce qui change, ce n'est pas l'existence du crédit, c'est le monde dans lequel ce crédit s'inscrit. Car la contrainte est structurelle. Le logement est plus cher relativement. Le crédit est plus long et ne s'allège pas aussi rapidement que ceux des boomers de l'époque. Et le calendrier de vie plus tardif, comme nous l'avons vu précédemment. L'indice prix des logements revenus a progressé de plus de 70% entre 1975 et 2025. Et la durée moyenne des emprunts immobiliers est passée de 14 ans en 1975 à 23 ans en 2025. Donc, à âge comparable, le temps disponible pour accumuler au long d'une vie n'est tout simplement plus le même. De plus, la capacité à épargner par le travail n'est également plus le même qu'auparavant. Nous l'avons vu, les dépenses préengagées sont plus lourdes aujourd'hui et le logement en absorbe une part plus importante. C'est précisément là que la trajectoire patrimoniale se durcit. Même avec un revenu « correct », entre guillemets, le patrimoine ne se construit pas sur un revenu théorique. Il se construit avec ce qu'il reste après les dépenses contraintes. Or, aujourd'hui, ce « reste » est plus faible, alors même que la mise en patrimoine exige davantage d'endettement et plus de temps.
Comme en France, nous tuons la réussite. Il est impossible de réussir par son travail parce que le taux d'imposition, le coin socio-fiscal, peut atteindre jusqu'à 150% de votre revenu net.
Leur salaire ne leur suffit plus à vivre correctement, ce qui n'était pas le cas dans certaines générations. Avant, on était ouvrier, on pouvait acheter sa maison, on pouvait acheter son appartement, etc.
Tous les professionnels qu'on a rencontrés nous disent qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se constituer un patrimoine uniquement par les revenus de son travail.
Ici, ce graphique de l'IGDD montre bien que le pouvoir d'achat immobilier des ménages a drastiquement baissé depuis les années 80-85. Fin 2025, les prix des logements restent très au-dessus de leur tendance historique. Et cela se retrouve dans l'endettement. Les ménages portent aujourd'hui une dette immobilière équivalente à 76% de leurs revenus disponibles annuels contre environ 30% au début des années 1980. Mais le patrimoine, ce n'est pas seulement être propriétaire. En 2024, la composition moyenne du patrimoine brut des ménages est répartie ainsi. 61% immobilier, 22% financier, 11% professionnel et 6% résiduel. Et si nous regardons maintenant comment est réparti globalement le patrimoine en France, de grosses inégalités sont aujourd'hui présentes. Les 10% les mieux dotés détiennent 48% de toute la masse de patrimoine brut. La moitié supérieure détient 93% du patrimoine brut.
Le patrimoine moyen des 10% les plus riches est 464 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres.
Et ce paysage patrimonial très concentré n'est pas une toile de fond abstraite. Il conditionne directement la manière dont les plus jeunes générations peuvent, ou non, entrer à leur tour dans l'accumulation. Et c'est ici que l'on arrive au cœur du sujet. Aujourd'hui, la vraie fracture ne se joue pas seulement au moment d'hériter. Elle se joue plus tôt. Au moment où certains reçoivent déjà de quoi acheter ou investir, et d'autres, non.
La génération des baby-boomers, qui est souvent pointée du doigt comme étant très privilégiée, en fait, c'est une génération qui donne énormément à ses enfants. Et donc, en fait, c'est surtout ça qui va créer en fait, des inégalités au-delà des gros revenus, hein, des gros patrimoines. Ça va créer des inégalités à toutes les étapes de la vie et exclure les gens qui n'ont absolument pas cette sécurité.
La DRESS le montre très clairement. Bénéficier d'un don ou d'un héritage est associé à une probabilité plus forte d'acheter son premier logement, plus 15 points. Et parmi les jeunes propriétaires, 4 ménages sur 10 déclarent avoir été aidés avant ou au moment de leur achat.
Qui aujourd'hui peut accéder à la propriété du logement à Paris par les revenus de son seul travail ? Sans aide familiale, c'est de plus en plus compliqué. Ça l'était beaucoup moins pour nos grands-parents.
Donc la donation ou l'aide familiale sous diverses formes n'est plus un détail. Elle devient une clé d'entrée dans le patrimoine, voire même une condition d'accès. C'est pourquoi la comparaison avec les boomers ne peut pas être manichéenne. Il ne s'agit pas de dire que les trentenaires d'aujourd'hui ne possèdent presque rien, mais qu'ils accèdent au patrimoine plus tard, avec des dettes plus longues et plus lourdes, dans un marché immobilier durablement déconnecté des revenus, et dans une société où la richesse patrimoniale est devenue beaucoup plus inégalitaire. Autrement dit, la possibilité de se constituer un patrimoine par le travail est devenue bien plus fragile et inégale pour les générations d'aujourd'hui. Ce n'est donc pas seulement la richesse finale qui a changé, c'est aussi tout le chemin qui permet d'y entrer. Aujourd'hui, les ménages âgés de 50 à 79 ans détiennent à eux seuls 61% du patrimoine total, alors qu'ils représentent 50% des ménages. En d'autres termes, une grande part de richesse française est désormais concentrée dans les mains des générations qui vont, dans les décennies à venir, commencer à la transmettre. Ce qui nous amène à la question suivante. Quelles seront les conséquences de cette grande transmission ? Cette grande transmission, c'est un transfert patrimonial de plusieurs milliers de milliards d'euros dans les 20 prochaines années, avec une accélération attendue surtout dans les années 2030 et 2040. Or, tout le monde ne bénéficiera pas de cette masse d'argent. Les boomers ont été une génération plus dotée que les précédentes, à âge comparable. Selon l'enquête Patrimoine de France Stratégie, les générations nées entre 1945 et 1964 ont un patrimoine 20% plus élevé que les générations nées entre 1935 et 1944, observées au même âge. En 1986, le patrimoine net médian des trentenaires est 45% plus élevé que celui des plus de 70 ans. En 2015, il devient 3,5 fois plus faible. Et les sexagénaires sont depuis 2010 la catégorie d'âge la plus dotée en patrimoine. En termes d'indicateurs de patrimoine net médian, les 30-39 ans passent de 48% en 1986 à 28% en 2021. Et les 70 ans et plus passent de 36% à 118% aujourd'hui. L'une des raisons identifiées est le recul de l'âge moyen à l'héritage, qui était de 43 ans début 80 à environ 52 ans en 2020.
Au 19e siècle, en 1820, on héritait en moyenne à 25 ans. Aujourd'hui, on hérite à 60 ans, c'est plus un point de départ, c'est un point d'arrivée.
Autrement dit, l'écart intergénérationnel n'est pas seulement une histoire d'immobilier. C'est aussi une histoire de cycle de vie du patrimoine qui s'est transformé et un patrimoine âgé qui reste élevé plus longtemps. Autre fait intéressant, le taux de pauvreté baisse significativement lors du départ à la retraite. Une analyse de la DRES, datant de mars 2026, explique que le taux de pauvreté passe d'environ 12% l'année précédant le départ à 8% la première année de retraite. Maintenant, si nous revenons sur le patrimoine en France, les transmissions s'amplifient. En euros constants, les flux de transmission sont passés de 60 à 250 milliards depuis 1980 et représentent aujourd'hui 19% du revenu disponible net des ménages, contre 8,5% en 1980. Alors, comment peut-on imaginer la suite des choses pour les générations d'aujourd'hui et celles à venir ? Dans une société où seulement 10% détiennent près de la moitié de tout le patrimoine. Pour commencer, les héritages arrivent souvent tard dans la vie. Début 2021, 40% des ménages avaient déjà hérité, mais parmi ces ménages, 61% d'entre eux avaient une personne de référence de 60 ans ou plus. A l'inverse, parmi les personnes de 30 à 39 ans, seuls 12% avaient déjà hérité au cours de leur vie, et seulement 9% avaient déjà reçu une donation. Cela veut dire qu'au moment où beaucoup de ménages auraient le plus besoin de capital, pour acheter, pour lancer une activité, sécuriser leur trajectoire, épargner, etc., une large majorité n'a encore rien reçu, et cela risque d'empirer. France Stratégie estime que l'âge moyen des enfants au décès de leurs parents pourrait passer de 50 ans aujourd'hui à 55 ans en 2035, puis 60 ans en 2070.
Nous allons voir le patrimoine changer massivement de main pour aller des plus âgés vers les âgés. Et les jeunes ne vont pas en bénéficier.
Regardons maintenant le profil des ménages qui ont déjà hérité. Début 2021, les ménages ayant déjà hérité avaient un patrimoine brut médian de 269 300 euros contre 177 200 euros pour l'ensemble. Les ménages ayant reçu plus de 100 000 euros d'héritage ou de donation ont des revenus courants de 20 à 30% supérieurs à ceux des autres ménages. C'est tout le paradoxe de cette grande transmission. Oui, elle va mettre en mouvement une masse immense de richesses, mais ce mouvement risque d'exacerber les inégalités. Car l'héritage reprend une place centrale dans la formation des patrimoines.
On est effectivement aujourd'hui de plus en plus, depuis une trentaine d'années environ, de plus en plus dans une société d'héritiers.
C'est qu'on assiste depuis les années 1970 à un retour de l'héritage, c'est-à-dire que l'héritage redevient un élément de plus en plus déterminant des trajectoires individuelles.
Dans le rapport Jean Jaurès, il est rappelé que le flux successoral représentait environ 15% du PIB en 2021, contre à peine 5% en 1950, et que la fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine total, contre 35% au début des années 1970.
Et ce retour nous montre combien nos sociétés se rapprochent de ce qu'étaient les sociétés du 19e siècle.
Alors, il faut remonter aussi loin pour trouver une situation similaire.
Effectivement.
Et rien qu'avec le vieillissement de la population et la hausse de la mortalité, les transmissions prendraient une place beaucoup plus importante. Elle passerait de 19% du revenu disponible net des ménages aujourd'hui à plus de 25% en 2050. Et si le patrimoine net moyen par âge continuait de progresser comme il l'a fait entre 1990 et 2012, elle pourrait même dépasser 31% du revenu disponible. Les jeunes générations n'hériteront donc pas seulement d'un patrimoine. Elles hériteront aussi et surtout d'un système patrimonial déjà profondément inégalitaire. Car aujourd'hui, le patrimoine pèse beaucoup plus lourd qu'autrefois par rapport aux revenus, ce qui rend l'héritage potentiellement bien plus décisif dans l'accès à la richesse. Entre 1980 et 2015, le revenu disponible réel des ménages a augmenté de 77%, tandis que leur patrimoine a été multiplié par 3, passant de 3 500 à 10 600 milliards d'euros constants. Résultat, le patrimoine net représente désormais 8 années de revenus disponibles, contre 4,5 au début des années 1980. Et cette augmentation a d'abord profité aux seniors. En 1986, le patrimoine net médian des trentenaires était 45% plus élevé que celui des plus de 70 ans. En 2015, il est 3 fois plus faible. Avec l'allongement de la vie, les ménages âgés ont aussi davantage besoin de conserver une épargne de sécurité, notamment face aux risques de dépendance. Cela signifie forcément moins de donations ou plus tardives. En conséquence, le patrimoine détenu par les seniors s'auto-alimente et la richesse de chacun risque de dépendre de plus en plus de ce qu'il reçoit de sa lignée familiale plutôt que ce qu'il parvient à construire par ses propres revenus. Ainsi, dans une société où l'on entre déjà plus tard dans le patrimoine, l'héritage risque de plus en plus d'arriver au moment où les grandes trajectoires patrimoniales sont déjà largement jouées. 3 mécanismes sont déjà observables. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela risque de produire? Plutôt que des scénarios spéculatifs, restons sur des mécanismes déjà observables. Mécanisme 1. La donation et l'aide familiale jouent comme un accélérateur d'installation. Comme nous l'avons vu précédemment, l'adresse montre que recevoir un don ou un héritage est associé à plus de probabilités d'achat du premier logement et que 4 jeunes propriétaires sur 10 ont été aidés avant ou au moment de l'achat. Donc, lorsqu'une donation ou aide arrive plus tôt, elle ne consolide pas seulement, elle permet l'entrée dans la constitution d'un patrimoine. Mécanisme numéro 2, l'héritage arrive plus tard et agit plus souvent comme un renforcement. Pour rappel, France Stratégie estime que l'âge moyen des enfants au décès de leurs parents pourrait passer de 50 ans aujourd'hui à 55 ans en 2035, puis 60 ans en 2070. L'âge des héritiers en ligne directe était de 43 ans au début des années 1980. En 2020, il est passé à 52 ans. Donc, l'héritage tend moins à lancer une trajectoire au début de la vie adulte et arrive davantage lorsque la trajectoire est déjà plus avancée. Mécanisme 3, la transmission se déploie dans un renversement intergénérationnel déjà acté. En 1986, les trentenaires étaient encore mieux positionnés que les 70 ans et plus. En 2015, la situation s'est inversée. Le HCSP retrouve le même mouvement lorsqu'il résonne en niveau de vie relatif. Donc, cette grande transmission va se déployer dans un monde où la part du patrimoine détenu en fin de vie est beaucoup plus élevée qu'avant, et où le patrimoine des jeunes est plus bas relativement. Alors, au bout du compte, que faut-il retenir de tout cela ? Les boomers n'ont pas vécu dans un paradis sans crise ni sans effort lorsqu'ils sont entrés dans la trentaine. Le début des années 1980 est une période tendue, mais ils ont avancé dans un monde où les conditions d'entrée dans le patrimoine étaient bien plus favorables qu'aujourd'hui sur plusieurs dimensions très concrètes. Un calendrier de vie plus précoce, formation finie plus tôt, emploi stable plus tôt aussi, donc plus de temps pour accumuler. Une position relative des jeunes dans les revenus et salaires plus favorable qu'aujourd'hui, y compris à diplôme comparable. Des dépenses contraintes qui laissaient plus d'air dans le budget, donc plus de capacité d'épargne. Un environnement où les prix étaient moins éloignés des revenus, avec des durées de crédit moins allongées qu'aujourd'hui. Pour les trentenaires et la jeunesse d'aujourd'hui, il devient beaucoup plus souvent l'aboutissement incertain d'un parcours plus tardif, plus contraint, plus endetté. Et surtout, plus inégal, selon que l'on reçoit ou non un coup de pouce précoce. Or, pendant ce temps, la grande transmission approche. Si rien ne change et avec tout ce que nous venons de voir, cette transmission pourrait profiter d'abord aux familles déjà les mieux dotées. La question n'est donc pas seulement qui héritera, mais plutôt dans quelle société patrimoniale ces héritages vont-ils tomber. La France, qui a pour devise liberté, égalité, fraternité, pourra-t-elle encore parler d'égalité si, demain, le patrimoine dépend de plus en plus de ce que l'on reçoit ? Plutôt que de ce que l'on construit. Nous espérons que ce troisième épisode dédié au patrimoine vous aura plu. Avez-vous vu le premier chapitre dédié au travail ainsi que le deuxième dédié au logement ? Les liens sont dans la description. Pour l'heure, nous vous donnons rendez-vous pour notre quatrième épisode consacré au pouvoir d'achat et niveau de vie, toujours dans le cadre de notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?» N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça compte vraiment pour nous. À bientôt !